Y'a des hauts, des bas et des hauts, de drôles de débats et de la démago.
Bonjour à tous, c'est l'émission mensuelle Urgence.
Des coups de pression, des coups dans le dos, des coups de bluff et des hauts, des hauts.
Émission qui a pour vocation d'informer, de mobiliser, d'alerter, de débattre d'un sujet de société.
Y'a des hauts, des hauts. Et les cadres sociaux, y'a la France moyenne, de Brest à Cayenne, y'a les sans-papiers, les sans sous les sens, sur les sans pitié, y'a les femmes seules et les prisonniers, y'a les infirmières et les gars du chantier, y'a les oufs, les ouaves, les toqués, toqués, malvoyants, clairvoyants et les nains du clergé. Quand tout ça se passe ici bas, où y'a des hauts, des bas et des hauts, de drôles de débats et de la démago.
Comme chaque mois, nous sommes très heureux de vous retrouver. Et une fois de plus, nous allons traiter d'un sujet de société. Je pense que c'est le rôle de la Ligue des droits de l'homme, non pas d'apporter des solutions, mais de faire réfléchir. Réfléchissons ensemble à des sujets de société qui nous semblent fondamentaux.
Urgence, émission animée et proposée par la section de la Ligue des droits de l'homme Villefranche et les Casvilles.
Bonjour, c'est Urgence. Urgence, l'émission mensuelle de la Ligue des droits de l'homme. Urgence pour les droits, urgence pour les libertés. Cette émission est également diffusée sur Radio Larzac. Alors ce mois-ci, nous vous proposons la suite des plaidoiries des lycéens pour les droits de l'homme. En janvier, vous aviez pu entendre la première partie. Le 18 janvier dernier, 11 élèves de seconde du lycée Raymond Savignac présentaient leur plaidoirie pour les droits de l'homme au théâtre municipal. Je voulais rappeler que ces plaidoiries ont été présentées dans le cadre de l'option littérature et société, avec leurs professeurs Isabelle Escudier, Benoît Vincent et Vanessa Despeyrou. Nous les remercions chaleureusement pour leur investissement éducatif au service des droits de l'homme. Alors vous allez entendre, après une pause musicale, vous allez entendre successivement Clémentine, qui vous parlera de la liberté d'expression en France, Marie-Lou, sur le mariage forcé, Théo, au sujet des religions et conflits, Jade, sur la maltraitance des enfants, et enfin Lola, qui abordera un sujet d'actualité, le sort des migrants qui embarquent sur des bateaux. Et je voudrais aussi signaler que nos deux maîtresses de cérémonie que vous entendez pour présenter les diverses plaidoiries sont Chloé et Diane. Et félicitations à nos maîtresses de cérémonie. Juste un dernier mot pour vous dire que la MGEN, Mutuelle Générale de l'Éducation Nationale, est partenaire de cette initiative au théâtre municipal. Je vous laisse en compagnie de nos jeunes lycéens qui plaident pour les droits de l'homme.
émission de radio. Le téléphone sonne sur France Inter. Voilà comment Clémentine a choisi le thème de sa plaidoirie. Elle aborde la liberté d'expression et dénonce comment les plus grands titres de la presse française sont devenus la propriété de quelques grandes fortunes. Comment, par exemple, Canal+, avec la suppression des guignols de l'info. Écoutons maintenant Clémentine qui se pose une question. Tous des guignols ?
Mesdames et messieurs, vous devez tous savoir que depuis plusieurs années, les migrants tentent la traversée vers l'Europe pour fuir la guerre. Beaucoup n'arrivent jamais à destination. Mais voilà, personne ne cherchait réellement de solution. Nous savions tous qu'il y avait des morts, mais c'était abstrait et semblait loin de nos préoccupations. Or, le jeudi 3 septembre, les médias du monde entier nous ont réveillés. Une photo. Un enfant de 3 ans sur une plage. Lui aussi a pris la mer avec sa famille pour fuir la guerre et la pauvreté. Mais c'est son corps sans vie que la mer nous a ramené. Grâce à cette photo, publiée sur Internet et relayée dans la presse, le problème a pris forme et consistance. Une photo pour que l'Europe se réveille. Après sa parution, les différents États de l'Union européenne ont réagi. Certes, de manière différente, et pas toujours avec solidarité et humanité, mais ils ont réagi. L'Allemagne a accepté d'ouvrir ses frontières, et de nombreux Allemands sont venus en aide aux réfugiés. Un véritable élan de solidarité est né. Une photo pour nous sensibiliser, pour nous rendre plus humains. Quel pouvoir pour une photo ? Quel pouvoir pour la presse ? Ce n'est pas la première fois que la presse nous permet de changer notre façon d'agir et de voir les choses. Des photos chocs, il y en a eu d'autres, comme par exemple celle de la petite fille au napalm pendant la guerre du Vietnam. Les Américains commençaient déjà à se désengager du bourbier vietnamien à ce moment. Et cette photo a contribué à convaincre leur opinion publique qu'il était temps de cesser cette guerre. Encore avant cela, si je n'avais qu'un seul exemple à citer du pouvoir de la presse, ce serait l'article « J'accuse » d'Émile Zola, qui a permis de mettre en lumière l'injustice flagrante de la condamnation du capitaine Dreyfus. La presse a la possibilité de mettre en évidence les injustices, de dénoncer la souffrance pour faire évoluer nos positions. Mais se pose alors le problème du contrôle de ce pouvoir. Qui décide de ce que l'on peut dire ou montrer ? La presse est-elle libre de tout dire et tout montrer dans notre pays ? Vous allez me dire que j'exagère et qu'en France, aborder un tel sujet dans une plaidoirie sur les droits de l'homme est incongru. Principe fondamental des systèmes démocratiques, la liberté de la presse est inscrite dans l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. L'article 19 de la Déclaration universelle des droits de l'homme et l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme. Nous ne sommes donc évidemment pas en Russie, où 21 journalistes, dont Anna Politkovskaya, ont été assassinés pour avoir dénoncé la dégradation des libertés publiques et la corruption dans l'ensemble du pays. Nous ne sommes donc pas non plus dans un des nombreux pays du monde où les droits de l'homme sont bafoués et la liberté de la presse inexistante. Pour autant, ne sommes-nous pas en droit de nous interroger sur l'état de la presse en France ? Le classement de l'ONG Reporters sans frontières sur la liberté de la presse ne nous place qu'au 38e rang mondial et souligne les violences à l'encontre des journalistes lors de manifestations, la possibilité d'être mis sous écoute, les conflits d'intérêts, et d'autres points encore. Pourtant, ce n'est pas ce classement qui m'a alertée, mais une petite chose de la vie de tous les jours, la fin de la retransmission des guignols de l'info sur la chaîne Canal+. J'ai grandi avec cette émission qui parodie férocement les acteurs de la vie politique et médiatique. Même si parfois leur regard est cruel, la fin de cette diffusion a représenté un choc pour de nombreux téléspectateurs accros au ton nasillard de PPD. Pourquoi cette diffusion est-elle interrompue en clair? Par manque d'audience? Pour renouveler les programmes? Pas exactement. Et là se situe le problème. Monsieur Vincent Bolloré, actionnaire majoritaire du groupe Vivendi depuis 2015, contrôle la filiale Canal+. Il ne semble pas vouloir se limiter à son rôle de financeur. Un article paru dans le journal Le Monde fait état de nombreuses dérives. Monsieur Bolloré aurait le « final cut » sur l'ensemble des reportages ou sketchs de sa chaîne. Ainsi, un reportage polémique concernant le Crédit Mutuel, banque partenaire du groupe Bolloré, aurait été déprogrammé sur intervention du patron de la chaîne. Concernant les guignols de l'info, émission culte de la chaîne, cultivant l'impertinence dans l'esprit canal, M. Bolloré a été soupçonné de vouloir purement et simplement la supprimer. Mais devant l'émoi provoqué par cette information, l'émission a été seulement déprogrammée en clair. De plus, c'est M. Bolloré lui-même qui a choisi les nouveaux auteurs et qui a personnellement supervisé l'écriture des nouveaux sketchs. Il va sans dire que le risque de censure est important. Et on peut notamment se demander si les sketchs mettant en scène la marionnette de Nicolas Sarkozy, ami de M. Bolloré, seront toujours aussi cinglants pour l'ancien président de la République. Le problème de l'indépendance des journalistes est donc clairement posé. Ceux-ci sont-ils libres de dire ou écrire tout ce qu'ils souhaitent? Ou doivent-ils veiller à ne pas déplaire à leurs actionnaires? Si tel est le cas, c'est donc bien que le pouvoir financier prend le pas sur l'indépendance des journalistes. Cette situation est d'autant plus préoccupante que la presse française est en pleine évolution, du fait notamment de l'arrivée de nouveaux médias. Ainsi s'engage en France un grand mouvement de concentration dont l'objectif est clairement de rendre les médias rentables en créant quelques groupes géants d'information. Certes, dans la loi française de 1944, le pluralisme des quotidiens d'information est un objectif de valeur constitutionnelle. Mais la loi de 1936 n'est pas assez contraignante. Trois propriétaires, selon cette loi, pourraient se partager l'ensemble des quotidiens d'information en France. Et c'est un peu le chemin que prennent les grands actionnaires de la presse, tant régionale que nationale. Monsieur Michel Lucas dirige un véritable empire médiatique du nom d'Ebra, qui est composé de 10 titres régionaux. Dans le même esprit, je pourrais citer Monsieur Patrick Drahi, Bernard Arnault à la tête de LVMH, Serge Dassault, Le Figaro, Martin Bouygues, TF1 et d'autres encore. On voit donc bien que progressivement, les plus grands titres de la presse française sont devenus la propriété de quelques grandes fortunes. Est-il normal que ces puissants contrôlent et parfois censurent, comme à Canal+, les informations diffusées quand celles-ci sont contraires à leurs intérêts personnels ou à ceux de leurs amis? De plus, une réelle pluralité peut-elle s'exprimer si ces manias de la presse ne sont plus que 3 ou 4? Une véritable démocratie en France ne sera préservée que si nous défendons une presse libre et plurielle. Les journalistes doivent pouvoir effectuer leurs enquêtes sans subir de pression et doivent être libres de choisir leur sujet. Aidons-les. Et pour cela, achetons les journaux ou abonnons-nous aux sites d'information en ligne. C'est grâce à ces lecteurs que la presse doit vivre. De plus, seuls des citoyens bien informés sont des citoyens aptes à faire de bons choix. En défendant les guignols, nous défendons la liberté de la presse. Comme nous avons tous été Charlie, soyons tous des guignols. Allez, à ciao, bonsoir.
Marie-Lou a lu un livre. Un livre de Pauline Penaud et de Sabine Panier, dans lequel les auteurs dénoncent le mariage forcé en France. Voici l'origine de son choix de plaidoirie. Marie-Lou aborde le sujet en nous faisant comprendre que c'est un problème qui touche le monde entier et pas seulement les pays dont on entend parler. Sélectionnée à Toulouse pour la finale régionale du concours de plaidoirie du Mémorial de Caen, place à Marie-Lou qui va vous démontrer que le cœur n'est pas un genou que l'on peut plier.
Il y a quelque temps, j'ai lu un livre. Un livre de Sabine Pané et Pauline Penaud sur l'histoire d'Awa, une adolescente qui vit dans la région parisienne. Ce livre m'a fait réaliser que le mariage forcé est un phénomène qui frappe partout. Pas seulement dans les pays dont on entend parler, mais même au plus près de nous, en France. Le mariage ne peut être conclu qu'avec le libre et plein consentement des futurs époux. L'article 16, alinéa 2 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, est on ne peut plus clair. Un mariage organisé sans le consentement d'un des deux mariés est un mariage forcé. Aujourd'hui, c'est plus de 250 millions d'enfants qui sont menacés de mariage forcé dans le monde, dont 70 000 en France. J'ajouterai que les filles sont plus touchées que les garçons et que, dans un sens, c'est également une atteinte à l'égalité homme-femme. Dans la plupart des cas, les mariages sont prévus avant la naissance, comme pour Awa, par exemple, qui, même avant de naître, avait un avenir tout tracé, un job de naissance, comme elle-même le dirait. En effet, le cousin de son père, Bassirou, vivant au Sénégal, avait payé le voyage de la famille où Aminata, la mère d'Awa, pourrait accoucher et donc obtenir à sa fille la nationalité française, qui, comme il le disait, pouvait toujours servir. En échange, la fille qui naîtrait s'appellerait Awa et à l'âge de 16 ans reviendrait au pays pour être mariée avec le fils de Bassirou. C'est comme ça. Dans certains pays, on préfère payer ses dettes en utilisant sa fille. Or, sachez qu'en France, selon l'article 222.14.4 du Code pénal, amener quelqu'un à l'étranger dans le but de le marier sans son consentement est puni de 45 000 euros d'amende et de 3 ans d'emprisonnement. Il y a également le phénomène des classes sociales, où dans le but de préserver leur honneur, les familles choisissent pour leur fille un homme riche et de la même catégorie qu'eux. Dans les familles pauvres, un enfant qui se marie est une bouche de moins à nourrir et une dot reçue. Je pourrais énumérer tant d'autres raisons pour lesquelles le mariage est imposé aux enfants. Mais pourquoi, me demanderez-vous? Pourquoi les jeunes filles ne disent-elles pas non au mariage? Je vous répondrai que ce n'est pas aussi simple. Que si elles se rebellent, on menace de marier leur petite sœur à leur place, on les frappe, on les renie, et que ce ne sont que des enfants qui, après avoir subi des pressions énormes, finissent parfois par être eux-mêmes convaincus que s'unir avec une personne qu'ils n'aiment pas est une bonne chose. Car oui, un enfant est influençable. Nous sommes influençables. Qui dit contrainte, dit conséquence. Et dans le cas des mariages forcés, celles-ci sont multiples. Pour commencer, la majorité des femmes mariées de force subissent des violences conjugales et des viols répétés. Comme le dirait le professeur Henrion, membre de l'Académie nationale de médecine de France, la fillette ou l'adolescente est soumise à des rapports forcés. Il s'agit donc ni plus ni moins d'un viol organisé et prémédité. Aux yeux de la loi en France, il représente un viol aggravé, car commis au sein du couple, puni de 20 ans de réclusion criminelle. Sans parler des ruptures de scolarité, des grossesses non désirées qui peuvent entraîner de graves problèmes de santé. Bien sûr qu'une fillette de 8, 9 ou 10 ans ne devrait pas avoir de rapport sexuel. Bien sûr que des enfants comme Elam, la jeune yéménite de 13 ans à peine, succombent à leurs blessures suite à leur nuit de noces. Bien sûr que pour échapper à leur propre mariage, des jeunes filles se donnent la mort. Et pour certains, me direz-vous, ce n'est sûrement qu'une question de religion. Et nous savons déjà que le catholicisme interdit le mariage forcé, comme on peut le lire dans le décret de Gratien, rédigé au XIIe siècle. La liberté est nécessaire pour la validité des contrats, et plus encore pour les mariages que pour tout autre. Mais, peut-être vais-je surprendre certains d'entre vous, l'islam, religion entre autres pratiquée en Afrique et au Moyen-Orient, qui sont des régions fortement touchées par le phénomène, interdit également le mariage forcé. Un célèbre alem dit que quiconque marie sa fille sans consentement, alors le mariage n'est pas correct, parce qu'une des conditions du mariage est le consentement. Alors, mesdames, messieurs, non, l'excuse de la religion n'est pas recevable. Rendez-vous compte que ce phénomène, bien que trop présent, est surmontable. Certaines jeunes filles trouvent le moyen de dire non. Comme Rekha Kalindi, cette jeune indienne de 11 ans à qui ses parents prévoient un mariage. La jeune fille sait déjà pourtant très bien ce qu'elle veut. Malgré les coups, elle ne changera pas d'avis et elle consultera une institutrice qui réussira à convaincre ses parents qu'elle a droit à une éducation, ce qui lui évitera de justesse son mariage. Aujourd'hui, la jeune femme parcourt les écoles pour faire passer son message « Strength to say no », son autobiographie, son histoire. La force de dire non, voilà ce qu'elle veut promouvoir à travers le monde pour inciter les jeunes filles à refuser et à ne pas subir leur destin. Malheureusement, encore trop de jeunes filles n'ont pas la force de refuser. Parlons des sœurs Filali, cette histoire vraie qui prouve que bien informées et épaulées, les filles peuvent se sortir de ce cauchemar. Patricia et Nadia Filali, 16 et 17 ans, vivent en France. Pour les vacances, leur père décide de les amener en Algérie pour leur faire découvrir son pays, pays dont ils ne parlent jamais. Arrivés là-bas, leur père refuse de les ramener en France. Après 3 ans de séquestration, Patricia réussira à s'échapper, mais sa cadette n'y parviendra pas et épousera l'homme choisi pour elle. 34 ans après, Patricia raconte leur histoire dans « Séparée par notre père », le livre qu'elle a écrit. À la fin de son récit, elle nous apprend qu'elle vit libre et heureuse en France, alors que Nadia est toujours en Algérie, malheureuse, avec un homme qu'elle n'aime pas. Après l'apparition du livre, sur le modèle de sa sœur, Nadia a appris à dire non. Mesdames et messieurs, je suis aujourd'hui devant vous afin de parler de ces pratiques et de montrer aux femmes qu'elles ont le pouvoir et la force de dire non. De dire non à un avenir qu'elles n'ont pas choisi. Et si je dénonce aujourd'hui ces pratiques, sachez que des associations se battent déjà depuis longtemps pour aider ces jeunes femmes. L'association Voix des femmes, qui lutte contre le mariage forcé et pour le respect du libre choix amoureux. Leurs actions sont multiples. Parmi elles, une campagne publicitaire. C'est ma vie, c'est moi qui choisis. L'ultime but de cette association est que le mariage forcé soit reconnu comme une violence. Alors portons-nous aussi tout autour de nous la voix de ces femmes. Pour finir, je reviendrai sur ce livre qui m'a fait prendre conscience de l'importance de ce phénomène. Ce livre qui raconte l'histoire d'Awa, contrainte de retourner au pays pour se marier, et qui finalement parviendra à l'éviter, car après tout, le cœur n'est pas un genou que l'on peut plier.
Les événements terroristes en France, la guerre en Syrie ou en Afghanistan, les groupes extrémistes tels Daesh ou Boko Haram, voilà les raisons du thème choisi par Théo dans sa plaidoirie défendant la laïcité. Il s'interroge sur l'utilisation de la religion faite par certains groupes d'individus ou États à des fins meurtrières. Je vous laisse méditer sur la plaidoirie de Théo. Prions pour que vous soyez inspirés.
Mesdames et messieurs, au cours de ces dernières années dans le monde, s'allument des nouveaux foyers de guerre. La persécution des chrétiens, en Inde ou au Sri Lanka. Les horreurs de Boko Haram au Nigeria. La guerre sans nom de Daesh en Irak et en Syrie. Et tant d'autres brasiers de violence et d'horreur comportent tous une question religieuse à un titre ou à un autre. La religion fait systématiquement son apparition comme cause explicite de ces nouvelles guerres. L'ONU définit Daesh comme étant un mouvement terroriste, responsable de crimes de guerre, de nettoyage ethnique et de crimes contre l'humanité. Pourtant, dans son préambule et dans son article 1, la Déclaration universelle des droits de l'homme proclame sans équivoque les droits inhérents à tous les êtres humains. Considérant que la méconnaissance et le mépris des droits de l'homme ont conduit à des actes de barbarie qui révoltent la conscience de l'humanité, l'avènement d'un monde où les êtres humains seront libres de parler et de croire, libérés de la terreur et de la misère, a été proclamé comme la plus haute aspiration de l'homme. Car personne ne peut nier que tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Mesdames et messieurs, les droits de l'homme sont des droits universels et inaliénables dont doivent jouir tous les êtres humains, quelles que soient leurs origines ethniques ou nationales, leur lieu de résidence, leur sexe, leur religion ou toute autre condition. Personne ne peut affirmer être supérieur à un autre. La Déclaration universelle précise dans son article 18 que « Aucune disposition de la présente déclaration ne peut être interprétée pour un État, un groupement ou un individu, un droit quelconque de se livrer à une activité ou d'accomplir un acte visant à la destruction des droits et libertés qui y sont énoncés. » Mesdames et messieurs, je prendrai pour exemple les événements qui se passent en Syrie et qui portent atteinte aux droits qu'ont les Syriens stipulés dans ladite déclaration. Avez-vous une idée du nombre de victimes qu'a fait la guerre en Syrie en 4 ans? Plus de 240 000 personnes sont mortes. Oui, mesdames et messieurs, vous avez bien entendu, 240 000, dont 12 000 enfants selon un nouveau bilan de l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Cela est sans parler des 12 millions de réfugiés syriens. 12 millions de réfugiés sur une population de 23 ont quitté leur terre natale pour fuir la guerre, selon le haut-commissaire des Nations Unies, Antonio Guterres. Et le bilan est certainement plus élevé encore, vu le grand nombre de disparus dont on ignore le sort, comme les 300 000 personnes en détention, dont 20 000 sont considérées comme disparues, mais aussi parce qu'il est difficile aux ONG de travailler dans les zones contrôlées par l'État islamique ou par le régime de Bachar el-Assad. On pourrait se demander, mesdames et messieurs, où sont passés les droits qu'ont les Syriens à la vie, à la liberté, à la sûreté? Les guerres sont de véritables obstacles au respect des droits de l'homme. Comme le stipule l'article 30 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, aucune disposition de la présente déclaration ne peut être interprétée pour un État, un groupement ou un individu, un droit quelconque de se livrer à une activité ou d'accomplir un acte visant à la destruction des droits et libertés qui y sont énoncés. Si nous poussons notre rétrospection un peu plus loin dans l'histoire, nous verrons que les guerres sont d'autant d'événements qui montrent que le respect des droits de l'homme dans le monde n'est pas encore atteint. Alors, mesdames et messieurs, je m'interroge, je vous interroge. Qu'est-ce qui fait que l'on n'ait pas encore atteint le plein respect des droits humains, alors que cela fait plus d'un siècle qu'on se l'est fixé? Ces dernières décennies, des millions de civils ont vu leurs existences brisées par des conflits armés. Ces conflits s'accompagnent bien souvent de violations graves du droit international et des droits de l'homme, lesquelles peuvent aller jusqu'au génocide, aux crimes de guerre ou aux crimes contre l'humanité. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, la communauté internationale a déployé de sérieux efforts pour faire la guerre à la guerre, pour empêcher des tragédies comme celle d'Oradour-sur-Glane. Ces efforts n'ont pas empêché la prolifération de conflits armés sur tous les continents. Car oui, mesdames et messieurs, ils n'ont pas empêché la guerre en Syrie, la guerre au Rwanda, celle en Afghanistan, le conflit israélo-palestinien. En France, Ils n'ont pas empêché les attentats de Charlie Hebdo et ceux de l'Hyper-Cacher. 17 morts et 22 blessés. Ils n'ont pas empêché non plus ceux du Stade de France, le massacre du Bataclan, les fusillades sur les cafés parisiens. 129 morts et 352 blessés. La religion, qu'on le veuille ou non, est mêlée à cette violence armée, parce qu'elle est nommément la motivation de ces guerres. Malheureusement, c'est bien le caractère totalitaire de la religion qui investit aujourd'hui le champ de la guerre à titre de source première et de but ultime. Par totalitaire, j'entends un mouvement, au final politique, s'imposant contre la responsabilité humaine. Il veut l'attaquer, puis la submerger, par l'infantilisation, par la force ou par la séduction. Voltaire a dit « Le fanatisme est un monstre qui ose se dire le fils de la religion ». Moi, je ne remets pas en cause les religions en tant que telles, mais bien l'interprétation faite de certains États et groupes d'individus des religions à des fins meurtrières. Car le terrorisme n'est pas le fait d'un seul groupe comme Daesh, mais bien de ceux qui utilisent une idéologie à des fins politiques. Daesh sera ainsi largement utilisé par les anciens officiers irakiens du parti Baas, déchus lors de l'invasion américaine de 2003. De plus, on peut se poser la question d'où viennent les armes ? Un rapport du Conflict Armement Research, publié le 6 octobre 2014, montre que les armes utilisées par Daesh proviennent en majorité des États-Unis, mais aussi de 20 autres pays. Cartouches de Russie et des États-Unis, fusils de Belgique, missiles anti-chars fabriqués par MBDA, leader européen dans ce domaine. Nous voici bien éloignés des questions religieuses. Nous avons la liberté de croire ou non à la religion, mais nous avons surtout le devoir de respecter tous les cultes, car comme je l'ai déjà dit, personne ne peut affirmer être supérieur à un autre. D'ailleurs, Saint-Exupéry n'a-t-il pas dit « Si tu diffères de moi, mon frère, loin de me léser, tu m'enrichis ». Dans Le Petit Prince, il exprime cette pensée dans un contexte de guerre pénible où la solitude pèse. Il prend alors conscience de l'autre, de ce qu'il est, à la fois semblable et différent, et de ce qu'il peut lui apporter. Par le mot « frère », il nous rappelle que nous sommes tous frères par nature, que nous avons tous la même origine. Il est clair que le non-respect de droits fondamentaux, comme l'égalité, mène inévitablement à des conflits, à des guerres. Tant que nous ne parviendrons pas à éliminer les conflits qui rongent l'humanité, en vain, nous signerons des traités de paix. Tout homme aspire au bonheur. Il a ce droit. Les droits humains nous semblent si naturels que les nier nous paraît futile. Mais nous savons aussi le casse-tête que cela représente de les respecter ou de les faire respecter. Et puisque le recours à l'armement pour résoudre les problèmes entre États ou pour résoudre les problèmes de famine ou d'éducation ne s'est jamais montré convaincant, mieux vaut tenter autre chose. Si laisser un monde meilleur à vos enfants vous interpelle, alors agissons tous à notre échelle pour le rendre meilleur, chers décideurs. Moi, je n'ai que 14 ans, j'hérite d'un monde que je n'ai pas construit et je clame cette plaidoirie pour le rassemblement de tous les hommes contre la barbarie, quelle que soit leur couleur, leur nationalité, leur culture, leur religion ou leur richesse. Car le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais par ceux qui regardent et qui laissent faire. Alors, chers décideurs, prions pour que vous soyez bien inspirés.
Sélectionnée à Toulouse pour la finale régionale du concours de plaidoirie de Caen, Jade nous parle d'un sujet tabou en France, l'horrible calvaire des enfants maltraités, dans sa plaidoirie « Parler pour lui ».
Mesdames, messieurs, les États partis prennent toutes les mesures législatives, administrative, sociale ou éducative, appropriée pour protéger l'enfant contre toute forme de violence, d'atteinte ou de brutalité physique ou mentale, d'abandon ou de négligence, de mauvais traitements ou d'exploitation, y compris la violence sexuelle, pendant qu'il est sous la garde de ses parents ou de l'un d'eux, de son ou ses représentants légaux ou de toute autre personne à qui il est confié. Convention internationale relative aux droits de l'enfant, 1989. 35 ans après, plus de 13 000 cas de maltraitance sont encore signalés en France. Marina, Bastien, Marie, Enzo, Sabrina, Dylan, Émilie, Léo, je pourrais en citer encore des centaines. Mais je m'arrêterai là, car je n'ai que 8 minutes pour vous expliquer les raisons de ma colère, pour expliquer la maltraitance des enfants et pour vous convaincre de vous battre avec moi. Comme l'a écrit Dostoïevski, il est impardonnable de maltraiter une créature sans défense, surtout un enfant. Mais les actes de maltraitance sont divers. Dégradation des affaires, insultes répétées, humiliations, secousses, privation de nourriture, d'hygiène, de vêtements, abus sexuels, coups, brûlures, empoisonnements, viols. Pourtant, selon l'article 5 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Les lois, elles aussi, sont multiples. La loi dite d'Orlac, du 10 juillet 1989, qui est relative à la prévention des mauvais traitements à l'égard des mineurs et à la protection de l'enfance. La loi du 5 mars 2007, qui, elle, met l'accent sur la prévention. Malgré tout, de 1996 à 2006, les cas de maltraitance infantile ont doublé en France. Oui, vous m'avez bien entendu, dans notre pays, berceau des droits de l'homme, les cas de maltraitance infantile ont doublé. J'ai donc décidé de donner la parole à ces enfants qui aujourd'hui n'en ont plus. En 2009, Marina est morte des suites des maltraitances causées par ses parents, avant de pousser son dernier souffle, seule, nue. Dans la cave de sa maison, elle prononce ces mots. « J'ai mal à la tête. Au revoir, maman. À demain. » Cette petite étoile s'est éteinte 6 ans après le début de son calvaire. Trouvez-vous ça normal? Trouvez-vous ça acceptable qu'une petite fille de 8 ans meure dans de telles conditions? Pourtant, quand je prends la Convention internationale des droits de l'enfant, j'y lis. Tout enfant a un droit inhérent à la vie. Et les États assure au maximum la survie et le développement de l'enfant. Et pendant tout ce temps, la France, pourtant signataire de la Convention de 1989, n'a pas agi, n'a pas été en mesure d'assurer la protection de cette petite Marina. 6 ans. Oui, mesdames et messieurs, le calvaire de Marina a duré 6 ans. 6 ans pendant lesquels les services sociaux n'ont pas pu prévenir cette catastrophe, n'ont pas pu agir. Malgré tout, en France, de nombreuses institutions sont présentes pour empêcher ce nombre de cas. L'aide sociale à l'enfance, qui définit dans le Code de l'action sociale et des familles. Cette institution a pour mission principale de venir en aide aux enfants et à leurs familles, que ce soit par des actions préventives, individuelles ou sociales. L'ASE est présente sur tout le territoire français et de nombreux professionnels sont au service de cet organisme. Éducateurs, assistants sociaux, psychologues, inspecteurs de l'enfance. Cependant, depuis 1990, le nombre d'assistants sociaux a baissé. Et cela devient de plus en plus difficile pour elles de couvrir une zone géographique qui ne cesse d'augmenter. Pour illustrer mes propos, je prendrai comme exemple Marina. Malgré de nombreux signaux d'alerte, personne n'a agi. Elle présentait de nombreux hématomes. Elle manquait souvent l'école. Elle semblait constamment affamée. Elle a été de nombreuses fois hospitalisée dans différents hôpitaux. Elle déménage très fréquemment. Mais le principal problème est d'identifier la situation de maltraitance. Car il ne faut pas se tromper. Mais il ne faut pas douter non plus. Car c'est le devoir de chacun. Nous devons savoir écouter nos proches. Nous devons savoir repérer les différents signaux d'alerte. Et puis surtout, nous ne devons pas avoir peur de le dire. Car il faut parler. Il faut dire que cela existe et pas forcément qu'aux autres. Il faut rester vigilant. Je voudrais aussi parler de Dylan, petit garçonnet âgé de 9 ans, qui, grâce aux services sociaux, a pu sortir de sa chambre-cellule, dans laquelle il vivait, reclus, dans des conditions sordides. Son calvaire a éclaté au grand jour avec l'enquête des services sociaux. Ses parents paraissaient irréprochables et l'enfant plein de vie. Personne n'a alerté les institutions. Personne n'a décelé de maltraitance sur ce petit garçon. Ni même sa grand-mère ou la voisine. Mais le plus difficile va être la reconstruction du petit Dylan. Car lorsqu'ils sont battus, les enfants perdent leur joie de vivre, se replient sur eux-mêmes et vont jusqu'à perdre l'estime d'eux-mêmes. Les agressions qu'ils ont subies vont rester à jamais gravées dans leur mémoire. Plusieurs années après le drame, ils vont ressentir le besoin de se venger, de haïr. Mais le plus désolant est qu'une fois l'âge adulte atteint, ils vont avoir tendance à reproduire cette violence, ces insultes, ces agressivités, ces abus de pouvoir. Oui, mesdames et messieurs, les facteurs les plus courants de maltraitance infantile sont les antécédents violents qu'ont pu avoir les parents dans leurs enfances. Pourtant, ce n'est pas et ne sera jamais une excuse. Pourquoi les parents qui ont subi des maltraitances infantiles reproduisent-ils la même chose à leurs enfants? Car c'est pour se venger d'avoir subi cela. Ce n'était pas leur faute à eux, ils n'avaient rien fait. Pourtant, aujourd'hui, les victimes deviennent bourreaux. Malheureusement, pour des milliers d'enfants, la violence est une réalité quotidienne. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut considérer cette maltraitance comme normale. Au contraire, cela doit susciter l'émotion et nous permettre de nous rendre compte que cela existe et qu'il faut y remédier. En effet, la maltraitance infantile est présente dans tous les milieux, favorisée ou non. Pourtant, celle dont on entend parler, principalement dans les médias, ne se passe que dans les milieux défavorisés. Pourquoi ? Pour vendre plus ? Mais le problème réside dans le fait que la maltraitance infantile présente dans les milieux favorisés ne se dit pas. On n'en entend pas parler, à cause de la pression familiale que subissent les enfants et même l'entourage des familles. Autre cause, la peur. Les victimes ou témoins ont peur des représailles ou de l'aggravation de la situation. Il y a aussi le sens de loyauté envers les coupables, car ceux-ci sont souvent membres de la famille proche. Ou encore le tabou qui règne aujourd'hui autour de la violence infantile. Comment un enfant maltraité peut-il un jour devenir un parent stable? Pour vous répondre, prenons le cas de Marie. Marie a aujourd'hui 33 ans. Elle a été maltraitée par son père jusqu'à ses 18 ans. Elle a, grâce à son mari, retrouvé confiance en elle. Malgré tout, les vieux démons du passé sont réapparus. Elle avait peur d'être violente avec sa fille, de ne pas supporter ses pleurs. Mais à chaque problème, son compagnon était là, pour la rassurer et pour l'aider du mieux qu'il peut. Comme le jour des 3 ans de sa fille et de sa première grosse bêtise d'enfant. Et elle était incapable de la gronder ou de fixer des limites à son éducation. Elle lui cédait tout, lui achetait tout ce qu'elle voulait. Jusqu'au moment où son compagnon a pris les choses en main. Il a fixé des limites. Et depuis ce temps-là, Marie et son compagnon vivent dans le plus grand bonheur, avec leur fille aujourd'hui âgée de 10 ans. Mesdames et messieurs, la maltraitance infantile est un fait majeur au jour d'aujourd'hui. Ne vous voilez pas la face. Pour terminer ma plaidoirie, je fais écho à la campagne de prévention de l'association L'Enfant Bleu. Mesdames, messieurs, un enfant maltraité ne parle pas, alors parlez pour lui.
Sélectionnée à Toulouse pour la finale régionale du concours de plaidoirie du Mémorial de Caen, Lola raconte le calvaire que les migrants doivent affronter pour pouvoir entrer dans un autre pays que le leur, pour être libres et égaux. Cette dernière plaidoirie s'intitule « Les gens veulent vivre, c'est pour ça qu'ils embarquent sur ces bateaux ».
Mesdames et messieurs, le 15 mars 2011 est une date qui ne vous interpellera pas forcément. C'est une date qui, pour vous et moi, était sûrement un mardi comme les autres. Mais pour les habitants de la Syrie, c'est une date qui bouleversera leur vie. C'est le début du conflit syrien. Ce jour-là, le régime fortement autoritaire, dirigé par Bachar el-Assad, s'achève, après avoir été en place pendant plus de 40 ans. Ce jour-là, une énorme partie de la population syrienne organisent des manifestations pacifiques et antigouvernementales réclamant plus de liberté dans leur pays. Ce jour-là provoqua le durcissement et la militarisation de l'opposition. Ce jour-là déclencha une guerre entre pro- et anti-régime qui divise la population aujourd'hui encore. Ce conflit met en danger la majorité de la population syrienne, qui, lorsqu'elle peut, fuit la Syrie, en espérant trouver des meilleures conditions de vie pour eux et leurs familles dans un autre pays que le leur. L'article 13 de la Déclaration universelle des droits de l'homme cite dans son 13e article que toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l'intérieur d'un État. Or, la majorité des pays que les Syriens cherchent à atteindre ne mettent pas tout en œuvre pour les accueillir dignement. D'après les estimations des experts, actuellement, plus de la moitié de la population syrienne est déplacée, soit 12 millions. Oui, vous m'avez bien entendu, 12 millions. Cette partie de la population subit des conditions terribles avant d'atteindre un refuge qui ne les acceptera pas forcément. Jean Mosle, un jeune Syrien de 22 ans, originaire de Damas et qui a fui la Syrie il y a quelques mois, témoigne au sujet de sa traversée afin d'obtenir le droit d'asile. Il est actuellement installé en Suède, mais il n'arrive pas à oublier l'horreur qu'a été son voyage. Je vous fais part de ses propos. Après avoir attendu un mois dans un camp de fortune situé dans le désert nord-ouest de la Libye, son trajet débute au port de Zouara, où il embarque sur un chalutier vieux et usé. Il précise qu'ils étaient plus de 700 personnes, dans un bateau qui n'avait place que pour la moitié d'entre eux. C'est un voyage pour lequel lui et son frère ont dû verser 5500 euros, une somme qu'ils ont obtenue avec difficulté et au cours d'une longue période. Il se souvient des hurlements qu'il entendait sans cesse, de la menace de chavirement du bateau dès que quelqu'un se mettait debout. Il se souvient des passeurs qui profitaient de leur détresse pour crier sur les passagers, les voler et les frapper. Il se souvient des deux migrants africains qui ne pouvaient pas respirer à cause des émanations du moteur et qui sont donc morts d'asphyxie. Il termine son témoignage en disant « Les gens veulent vivre, c'est pour ça qu'ils embarquent sur ces bateaux ». Rappelons-nous de l'article 13 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui stipule que toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l'intérieur d'un État. Tenter le périple vers l'Europe est un risque à prendre. Mohamed El-Hari, un réfugié venu du sud de la Syrie, nous conte au sujet de sa traversée. Certains ne peuvent plus résister, leur souffrance est ignorée et les aides humanitaires sont de plus en plus rares. Qu'est-ce que vous attendez de nous? Qu'on meure en silence? Le Syrien a deux choix, soit mourir dans son pays, soit émigrer. Mais même si les migrants ont réussi leur traversée, ces réfugiés ne sont pas forcément accueillis comme il se doit à leur arrivée. Les trois pays qui ont le plus accueilli au cours des dernières années sont la Turquie, le Liban et la Jordanie, qui ont donné un refuge à 4,5 millions de réfugiés. Or, ces pays ont eux-mêmes leurs propres problèmes. Leur stabilité économique et sociale est menacée par des conflits. Malgré le fait que des pays européens aient un contexte plus favorable pour accueillir les réfugiés, depuis le début du conflit, ils n'auraient seulement accepté 4% de réfugiés syriens. Cependant, durant la crise migratoire des derniers mois, de plus en plus de réfugiés syriens recherchent l'asile en Europe. Les questions d'accueil divisent profondément les Européens. D'une part, les Européens veulent venir en aide à ces populations en détresse qui ont tout perdu. D'autre part, il y a le fait que l'économie européenne est fragile et que certains pays ont peur de ne pas pouvoir assumer des personnes supplémentaires au niveau des emplois, de la scolarité et des autres services publics. Pour débuter la résolution de ce problème, l'Union européenne a mis en place des obligations d'accueil s'appliquant à 25 des 28 pays membres afin de répartir un total de 160 000 réfugiés sur 2 ans. Ces quotas ont reçu des réactions très différentes parmi les différents pays européens. Par exemple, l'Allemagne a promis de prendre en charge plus de 30 000 migrants, alors que la Hongrie a fermé ses frontières et refuse totalement les quotas de réfugiés. La France fait partie des pays qui acceptent les quotas de réfugiés et qui laissent leurs frontières ouvertes. Face à l'afflux d'exilés en Europe, François Hollande a annoncé le lundi 7 septembre 2015 que la France serait prête à accueillir 24 000 réfugiés supplémentaires, s'ajoutant aux 6 750 déjà accueillis en juillet. Mais sachez qu'il faut en moyenne 9 mois pour obtenir l'asile en France, une période au cours de laquelle les demandeurs ne peuvent pas travailler. Mais la Déclaration universelle des droits de l'homme cite dans son 25e article que toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour le logement, les soins médicaux ainsi que pour les services sociaux nécessaires. Elle a droit à la sécurité en cas de chômage. Comment offrir un niveau de vie suffisant à ces réfugiés s'ils ne peuvent pas travailler ? Il faut donc accélérer les démarches pour qu'ils puissent seuls subvenir à leurs besoins. Alors, je vous demande, est-ce normal que des gens risquent leur vie pour avoir juste une partie de ce que nous avons la chance d'avoir ? Avons-nous oublié la notion de solidarité, de secours ? Les événements du vendredi 13 novembre nous montreraient que nous ne sommes à l'abri de rien et qu'aujourd'hui, l'union est cruciale à notre société. Mais pourquoi aurions-nous une vie tellement plus confortable que d'autres sans chercher à les aider ? Est-ce normal que des milliers de personnes meurent au cours de ces traversées ? Que des milliers de personnes perdent leurs proches ? Je regrette de vous dire que c'est une atteinte à l'article 13 des droits de l'homme, une chose qui ne devrait plus avoir lieu aujourd'hui. Vous ne comprenez peut-être pas leurs gestes, mais les gens veulent vivre. C'est pour ça qu'ils embarquent sur ces bateaux.
C'était Urgence, l'émission mensuelle de la Ligue des droits de l'homme. Urgence pour les droits, urgence pour les libertés. Nous nous retrouvons le mois prochain sur un thème lui aussi d'actualité, le thème de la corruption. Excellente journée à tous. Avec la Ligue des droits de l'homme, défendons au quotidien les droits, les libertés et la solidarité.
Il y a des hauts, des bas, des bas et des hauts. De drôles de débats et de la démago. Des coups de pression, des coups dans le dos. Des coups de bluff et des rodéos. Y'a des rodéos.
Y'a des rodéos.
Et la France d'en bas. Et la France d'en haut. Celle dit des bourgeois. Celle dit des prolos. Y'a les petits fils à papa. Et les cadres sociaux. Y'a la France moyenne. Sans papier, les sans sous les sens, sur les sans pitié. Y'a les femmes seules et les prisonniers. Y'a les infirmières et les gars du chantier. Y'a les ouf, les ouaves, les toqués, toqués. Malvoyants, clairvoyants et les nains du clergé. Et voici que me voilà. Oui, me voici, c'est moi que v'là. Je peux chanter, parler de tout ça. Quand tout ça se passe ici bas, où y'a des hauts, des bas, des bas et des hauts. De drôles de débats et de la démago. Des coups dans le dos, des coups de bluff et des rodéos. Y'a des rodéos, de drôles de débats et de la démago. Des coups de pression, des coups dans le dos, des coups de bluff et des rodéos. Hello, comment ça va? On s'est pas vu depuis longtemps, toi et moi. Le temps passe vite et il t'a usé. Fier comme un paquebot, digne comme un voilier. Y'a la chance, la loose et la oui. Redonne l'espoir quand la vie abîme. Il paraît qu'on ne vit qu'une fois. J'ignore tellement de choses, mais pas celle-là. Y'a pas de sous-métier. Y'en a quand même de très mal payés. L'insécurité est une grande vedette de la télé. Y'a des tonnes de types qu'on y en a fait en prison. Plein d'escrocs cravatés qui nous prennent pour des cons. Je me suis perdu dans la foule et réfugié dans le son. Ma chenouf, ma gamme, ma plus c'est l'addiction. Chanter, parler, tout ça. Quand tout ça se passe ici-bas, oui.